Divergence FM.
L'été, on allait voir la mer.
Cette voix m'est familière.
93.9.
La mer, la mer, la mer,
la mer. Le soleil, le soleil, le soleil.
Sur la plage, j'appelle.
Les touristes peuvent donc jouir maintenant d'une vaste plage musicale.
Oh, que c'est romantique!
Sur la plage abandonnée, Divergence FM. Une plage de rêve, 93.9.
La mer. La mer.
Pour Divergence, il ne sera pas question de la mer, mais de pluie. Il pleut, il mouille. C'est la fête à la grenouille, c'est ça, Christian?
Ouais, Bruno, il pleut, il mouille. C'est la fête à la grenouille. Le Midi Libre d'aujourd'hui traite de la sécheresse pour la préfecture. Il n'a jamais aussi peu plu depuis 46, écrit le Midi Libre. Eh bien, pour parler non pas de sécheresse, mais de pluie que nous attendons avec impatience, on reçoit Bruno. Notre ami Nicolas Catin de l'Agence locale de l'énergie. Salut Nicolas.
Bonjour.
Quelle drôle d'idée de préparer un café climat à l'Agence locale de l'énergie de Montpellier autour de la récupération d'eau de pluie. Hein, bonne idée en pleine période de sécheresse où la préfecture envoie toutes les recommandations pour arrêter de laver sa bagnole, d'arroser son jardin, patati patata, etc. Alors, Nicolas.
Oui, alors effectivement. Mais
à table.
Effectivement. Alors, on choisit les thèmes un petit peu, je dirais quasiment un an à l'avance. Mais au-delà de ça, ça participe, je dirais, de l'économie des ressources, de toute façon. Voilà, effectivement, des restrictions d'eau. Si on avait pu collecter de l'eau pendant l'hiver, on aurait pu continuer à avoir certains usages et éviter des restrictions avec de l'eau de pluie potentiellement. Mais il se trouve que de toute façon, on est dans le même, tous dans le même bateau. Hein. Donc l'idée, c'est que voilà, on faut limiter avant tout les besoins, donc limiter le gaspillage, avoir des usages efficaces de la consommation d'eau et substituer éventuellement l'eau du réseau à de l'eau alternative entre guillemets. Donc l'eau de pluie est une solution potentielle qu'on peut explorer.
Et c'est qui peut s'occuper de ça là? Parce que l'eau de pluie, récupérer l'eau de pluie, je sais pas moi, ça doit coûter un max ce genre de truc, non? Faut faire des installations, c'est pas donné à toutes les bourses de vouloir se la jouer fibre écolo, je récupère l'eau de pluie, etc.
Oui, effectivement, au-delà de l'aspect écologique, hein, c'est des installations qui coûtent entre les premiers prix pour des récupérateurs basiques qu'on a tous vu dans des grandes surfaces de bricolage ou ailleurs, c'est pas trop de 50, 60, 100 euros. On peut déjà avoir un petit système de récupération qu'on met sur la gouttière qui va pouvoir arroser le jardin ou avoir quelques usages en extérieur. Et après, effectivement, si on passe sur des usages intérieurs, donc là, on est plutôt pour les toilettes, pour potentiellement le lavage du linge aussi, arrosage ou autre. Et là, effectivement, on est plutôt sur quelques milliers d'euros. Voilà. Ça peut être en auto-construction, entre guillemets, ou fait par des professionnels.
Bruno.
Ouais, moi j'ai une question là-dessus, parce qu'on parle de récupération d'eau de pluie, c'est bien beau, mais quand on a un jardin, comment on fait quand on est dans un immeuble? Est-ce qu'il y a des règles pour ça dans la construction ou même dans l'aménagement?
Alors il n'y a pas de règles, il n'y a pas de spécifications par rapport à ça strictement. Je prends l'exemple de la Belgique, où maintenant toutes les constructions neuves sont obligatoirement équipées d'une cuve de récupération d'eau de pluie. Là-bas, je crois que c'est 4% en fait de l'alimentation en eau est assurée par l'eau de pluie. Alors 4% c'est pas énorme, mais c'est quand même relativement conséquent, c'est un bon début. Il y a des campagnes de sensibilisation par rapport à ça. Nous, très localement, je Montpellier et puis plus largement l'Hérault, faut être un peu plus prudent, sachant que une analyse, on va dire, on peut prendre la carte de France et dire tiens, il pleut par-ci, il pleut par-là, voilà des moyennes annuelles, choses comme ça. Mais quand on zoome un petit peu, notamment sur l'Hérault, il y a une très forte disparité entre le nord du département, la côte et notamment tout le littoral, qui en plus accueille du monde en été. Donc on est un peu gêné par rapport à ça. Donc voilà, il y a des fortes disparités, donc il faut faire bien attention par rapport à ce qu'on peut faire. Et pour venir à votre question sur l'aspect obligation ou réglementation vis-à-vis de ça, alors déjà, on parlait de sobriété un petit peu tout à l'heure, des ressources, là, quand on va équiper son jardin ou remodeler son jardin ou faire le choix de nouvelles plantes ou autres, on peut déjà choisir bien sûr des plantes économes en eau, méditerranéennes, locales, ça c'est clairement la base, parce que si on fait, si on met 10 000 euros dans une cuve pour aller récupérer de l'eau de pluie, pour laver sa voiture et arroser sa pelouse, bon bah là c'est faux quoi, on est d'accord. Hein.
Oups, le prix Bruno, 10 000 euros. T'as pas 10 000, et tout à l'heure Nicolas, tu nous avais parlé de 50, 60 euros pour une cuve, là on est passé à 10 000.
Non mais là c'était la fourchette, vraiment, je faisais le système basique, une centaine d'euros pour une cuve basique pour arroser quelques plantes à l'extérieur, plutôt j'irais des plantes nourricières, hein, j'ai envie de dire des plantes qui vont produire quelque chose. Hein. Le gazon, c'est l'agrément, c'est pas très productif, entre guillemets. Donc, plutôt favoriser des choses qui vont pouvoir nourrir soit sa famille ou les voisins éventuellement. Donc, ça peut être déjà des petits systèmes qui vont être là pour pallier, on va dire. Enfin, le jour où il pleut, effectivement, ça va récupérer. Donc, tant qu'à faire, on peut récupérer. C'est pas forcément de gros investissements. En collectif, je pense à une copropriété, ça passe par l'accord de la copropriété. Donc, c'est des choses à discuter. Pourquoi pas, c'est pas du tout interdit. Il y a des choses à rappeler, il y a des petits autocollants à mettre, on va dire, pour rappeler que c'est une eau non potable, voilà, par rapport aux enfants, des choses comme ça, faire un peu attention, mais après au-delà ça peut être intéressant. Et du coup j'ai oublié ta remarque. Oui, c'était par rapport au prix.
Ouais, voilà. C'est le prix. Alors, là, voilà, ça, c'était je suis bloqué là-dessus, moi. C'est l'idée que je me fais. Enfin, je sais pas, Bruno, toi ce que tu en penses, mais dès qu'on veut être dans une logique de sobriété, etc., si on a les moyens, on peut se donner à bonne conscience comme ça. Alors, une petite fibre écolo, et quand on n'a pas les moyens, ben voilà. Parce que, question con, mais quand tu sais le prix de l'eau, enfin le litre d'eau distribué, c'est moins cher que. Enfin, c'est pas cher, quoi. C'est l'eau la moins chère qu'on puisse trouver, même s'il y en a qui trouvent que c'est trop cher.
Effectivement, par rapport à
ce qu'on parle. Il faut investir le temps d'amortir le truc, tu te dis.
Qu'on parle en bouteille, effectivement.
On est quand même dans une société de consommation.
Complètement. L'investissement, si on parle très franchement, c'est des temps de retour sur investissement au prix actuel de l'eau qui sont de l'ordre de 10, 15, 20 ans. Bien sûr. Et après, je te retourne la question, quand tu achètes une voiture, est-ce que tu calcules à chaque fois le temps de retour sur investissement? Les gens qui ont pas forcément, qui roulent pas forcément sur l'or, qui vont refaire leur cuisine, repeindre leur salon, je te demande le temps de retour sur investissement.
C'est une mauvaise question, moi j'ai pas les moyens d'acheter une voiture.
Non, mais voilà, ce temps d'économie, je pense que c'est une question de priorité. Il y a des gens qui vont être très soucieux de leur voiture, de la propreté de leur voiture, et du coup qui vont la laver tous les week-ends, on est d'accord pour dire que c'est peut-être pas forcément la meilleure chose à faire en ce moment, et même toute l'année. Et puis après, sur ces questions-là, tout est une question de mesure. Nous, avant tout, bien sûr, on parle de ces éléments-là parce que ça peut intéresser des gens qui sont. Autant le faire bien si on décide de le faire. Mais après, au-delà, effectivement, la sobriété, elle n'est pas réservée aux riches. Hein, et puis, elle est même. Enfin, à mettre en œuvre, elle est même plutôt, je dirais, si on a un mode de vie relativement modeste, je dirais a priori, on sera peu consommateur. Si on a trois jacuzzis et trois baignoires, c'est sûr que là, on aura des consommations d'eau plus élevées.
Et alors là, Nicolas Catin, on parle du particulier, mais est-ce que ça ne serait pas plutôt aux industriels de faire cette démarche en amont? C'est comme un peu comme quand on achète un tube de dentifrice dans un supermarché et qu'on a le carton en plus. Ça serait peut-être aux industriels de vendre le tube de dentifrice sans le carton. Et c'est à peu près la même remarque pour les logements. Pourquoi c'est toujours aux particuliers de faire cette démarche et non pas à l'industriel du bâtiment ou,
Alors effectivement, la consommation d'eau est peut-être un petit peu. On voit sur le chemin parallèle avec l'énergie, hein, où il y a des. Alors pour le coup, tu dis industriel, mais c'est aussi l'aspect réglementaire, hein, finalement. Je pense là, donc début 2013, on a une nouvelle réglementation thermique qui rentre en vigueur pour les constructions neuves. On a une obligation donc de faire des bâtiments, ce qu'on appelle basse consommation d'énergie. Mais là, pour le coup, le niveau de consommation d'eau n'est pas forcément pris en compte. Donc ils ne sont pas forcément livrés de base avec des équipements, ce qu'on appelle hydroéconomes, donc un robinet qui consomme deux fois moins qu'un autre pour le même usage, des chasses d'eau, des choses comme ça. Bon, ça rentre dans les mœurs maintenant, les chasses d'eau double flux, des choses comme ça, mais voilà, l'arrosage des jardins, par exemple, vous avez des promoteurs, on le voit même avec des équipements publics, hein, il y a une inertie encore assez importante et qui fait qu'on n'a pas encore, passage à l'acte, on va dire, sur des plantes locales, des plantes méditerranéennes, des choses comme ça.
Bon, en attendant, on est en pleine sécheresse. Tu peux pas nous faire tomber la pluie, là, Bruno? T'as pas un petit orage à nous proposer? Parce que là, on fait quoi, là, pour cette nuit? Là, il va pleuvoir trois gouttes, on récupère que dalle, hein.
Non, effectivement. Alors là, si on était parti pour récupérer cette année, en ce début d'année, c'est mal parti. Hein.
Bon, alors, ce café climat sur la récupération d'eau de pluie, qu'est-ce que tu vas proposer aux personnes qui vont venir alors on fera cette période de sécheresse, voilà. S'intéresser à la récupération d'eau de pluie. En même temps, c'est bien l'été qu'on fait les travaux pour l'hiver, hein, y a pas de souci.
Oui, encore une fois, voilà, c'est pour les gens qui sont intéressés, qui voudraient faire des choses potentiellement, et qui se disent, tiens, plutôt que refaire ma cuisine, je vais peut-être mettre un système pour récupérer l'eau de pluie, en parallèle de comportement sobre, on est d'accord avec ça. Et donc, ce qu'on va proposer, en fait, c'est un petit point, des éléments de contexte, effectivement, pour rappeler, effectivement, ce que j'ai évoqué là, les disparités, notamment locales sur le département. Un outil du Conseil Général de l'Hérault, alors qui malheureusement ne sera pas là pour le présenter, mais je le ferai à leur place, sur des ABAC, en fait, des systèmes de courbes qui sont sont à disposition du public pour permettre, on va dire, de prédimensionner, de savoir un peu où on va. Si on veut récupérer l'eau de pluie en fonction du territoire là où on se situe, en fonction de sa typologie d'habitat, on peut déterminer le niveau de pourcentage qu'on va récupérer et en gros le volume de cuve dont on aura besoin. Donc ça, c'est déjà un premier prédimensionnement intéressant. Et puis on a un installateur à Fabrec, qui est un professionnel, qui installe des cuves de récupération d'eau de pluie, qui nous fera un peu le point, je dirais, sur l'aspect réglementaire et technique. En gros, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis ensuite, si on le fait, effectivement, quel type de cuve, quel tous les systèmes, combien ça coûte, bien entendu, on l'abordera.
Nicolas, donc ce café climat du mois d'avril, bien nommé, il pleut, il mouille. Donc encore une fois, j'insiste lourdement, je trouve ça toujours très curieux de faire un sujet comme ça sur dans une période de sécheresse, mais a priori pourquoi pas. Les autres cafés climat de la LE, on peut en parler peut-être sur le printemps là, qu'est-ce qu'on va avoir après, éviter la douche froide. Tiens, on est encore dans la flotte.
Au mois de février, on a parlé de tout ce qui était chauffage au bois. Là, pour le coup, le chauffage au bois, c'est une énergie pas très chère, relativement accessible, donc c'est plutôt intéressant. On parlera au mois de juin là, des différents systèmes pour produire de l'eau chaude sanitaire, donc chauffe-eau solaire ou chauffe-eau thermodynamique. Là, c'est un système un peu récent qui arrive, qui bouscule un peu les habitudes. Et puis ensuite, surtout, moi, effectivement, à la rentrée, on fera un atelier pratique pour vraiment mettre en œuvre des choses. Et là, pour le coup, vraiment, ça concerne, je dirais, tout le monde. On est tous concernés par ça. Comment gérer ces appareils électriques, un ordinateur, ses consommations d'eau en interne dans son habitat, qu'on soit propriétaire, locataire, en maison, en appartement. Donc tout le monde sera invité à venir tester vraiment in situ des équipements économes.
Ok, on rappelle l'adresse du site de l'agence locale de l'énergie, www.ale-montpellier.org. Nicolas, eh ben écoute, bonne grenouille ce soir.
Et on rappelle les dates aussi, Christian, que c'est le mardi 3 avril 2012 de 18h30 à 20h. Et c'est gratuit.
Et si tu n'étais pas là. Allez, ciao, ciao.
Merci,
Nicolas.
Beaucoup.